14h19 à Paris et nous revenons maintenant sur les élections législatives en France après un premier tour largement dominé par l'extrême droite. Pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national a obtenu 33% des suffrages. La coalition de gauche est derrière avec 28% et la majorité sortante encore plus loin derrière. De l'avis de toute la presse européenne, le pari d'Emmanuel Macron avec ses élections anticipées est raté et lui affaibli. Notre invité pour en parler est politologue, spécialiste des relations internationales et professeur émérite des universités à Sciences Po. Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
On va commencer peut-être par évoquer l'Europe. Ça n'est pas rien hein, parce que la France est l'un des pays moteurs de l'Union européenne. Alors évidemment, on ne sait pas encore quel sera le résultat des législatives, si le RN pourra obtenir une majorité absolue dimanche prochain ou si la gauche arrivera en tête avec une majorité relative. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une cohabitation. Quelles seraient les conséquences au sein des institutions européennes ?
Oui, alors je me permets déjà de reprendre un petit point. On n'est pas sûr qu'il y aura une cohabitation, car la cohabitation suppose quelque chose qu'on a connu par trois fois sous la Ve République, à savoir une majorité absolue dont disposerait le gouvernement qui serait formé, le Premier ministre qui serait à Matignon. Or, dans l'état actuel des choses, et pour la première fois sous la Ve République, cette configuration n'est pas acquise.
Elle n'est pas acquise. En tout cas, il y aura un Premier ministre qui ne sera pas du même bord politique que le président français.
En tout cas, est un terme un peu imprudent, parce que s'il n'y a de majorité nulle part, rien n'empêche le président, et ça a été évoqué plusieurs fois, de faire appel à une personnalité dite technique ou technocratique et qui transcenderait les partis politiques. Mais je ne veux pas fuir votre question. Effectivement, l'Europe est un des grands chapitres qui se distingue par son incertitude aujourd'hui. Dans le cas du Rassemblement national, on a assisté depuis un certain temps à un très curieux dégradé. On partait de très haut ou de très bas, ça dépend des goûts, c'est-à-dire d'une vision de l'Europe qui était négative, voire destructrice. Il a été évoqué un temps l'hypothèse du Frexit, mais sans aller jusque-là, on a évoqué l'hypothèse d'une sortie de l'euro, et sans aller même jusque-là à des demandes, des exigences de réformes profondes des institutions européennes de manière à renforcer la souveraineté de la France. Maintenant, le propos est beaucoup plus prudent. Il reste, et tout le monde le sait bien, qu'on ne peut pas faire progresser l'Europe sans aimer l'Europe, c'est-à-dire sans véritablement investir dans son identité même l'idée que l'avenir, c'est celle de l'intégration régionale. Ça, le Rassemblement national n'en veut pas, c'est une rupture dans l'histoire de la Ve République et je dirais même dans l'histoire de la République française depuis qu'elle est partie au traité de Rome de 1957. Donc, que va-t-il se passer dans cette situation ? Trois éléments explosifs. Premier élément, une négociation avec un président de la République qui reste un fervent défenseur de l'Europe et qui n'a cessé d'appeler à une refondation de l'Europe. Que sortira de cet affrontement, nul ne le sait. Le deuxième affrontement, il est à l'intérieur du Conseil européen. Vous savez que le Conseil européen est quand même l'institution clé, fondamentale, pivot des institutions européennes. Et là, il va falloir s'attendre à quelque chose qu'on avait un peu oublié depuis un certain temps, qui sont les nuits de blocage, c'est-à-dire où il deviendra très difficile à des partisans, de fervents partisans de l'Europe, je pense en particulier à l'Allemagne, mais on pourrait aussi trouver bien d'autres partenaires, mais je dis l'Allemagne à cause du couple franco-allemand, il sera très difficile de trouver un consensus. Et puis, il y a plus surprenant, un troisième blocage, qui est les nationalistes européens, même s'il s'agit de la même famille, c'est une famille qui est extrêmement divisée. On est sur le point d'avoir trois groupes parlementaires européens d'inspiration nationaliste, puisque Viktor Orban vient de prendre l'initiative d'en créer un nouveau.
C'est ce qu'il a proposé hier.
Voilà. Et on sait par ailleurs que la sensibilité des différents partis nationalistes européens, que ce soit Madame Meloni en Italie, que ce soit les formations d'extrême droite associées au pouvoir en Europe du Nord, ou que ce soit les formations du même type relevant de l'Europe orientale, sont très différentes. Et puis après tout, un nationaliste, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui prétend d'abord défendre les intérêts nationaux. Il n'est pas rare de voir des nationalistes se quereller entre
oui,
eux.
Oui, donc sans garantie d'unité au sein des institutions européennes. Il nous reste à peine une minute, je suis désolée, il nous reste peu de temps, Bertrand Badie. Je voulais vous entendre sur les conséquences possibles sur l'Ukraine, puisque ces derniers mois, Emmanuel Macron a vraiment tiré ses alliés pour aller plus loin à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence, un président français un peu affaibli ?
Je dirais quand même que l'affaiblissement, il a commencé il y a plus longtemps, lorsque, pour la première fois, Emmanuel Macron a parlé de l'éventualité ou de la non-exclusion d'envoi de troupes au sol, et qu'il a été nettement en minorité à l'intérieur de l'Europe comme à l'intérieur de l'Alliance Atlantique. Donc là, les clivages existent, et je dirais qu'ils ne pourront qu'être davantage accusés. Chacun sait la proximité qu'il y a entre le Front National, le Rassemblement National, pardon, et la Russie de Poutine, ce qui va
avec beaucoup de questions qui s'exprimaient d'ailleurs aujourd'hui dans la presse ukrainienne, où l'on s'interrogeait sur ce que pourraient être les conséquences de cette montée donc historique de l'extrême droite en France. Merci Bertrand Badie d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur émérite des universités à Sciences Po.